Québec se lève.
La chronique historique de François Terrien. Voici le studieux sieur de Terrien.
Oh, que oui, on va être obligé de mettre notre chicane sur pause parce que le sieur de Terrien a tout son prestige qui s'installe avec nous pour nous parler des plaines d'Abraham. Non, les plaines d'Abraham qui, sincèrement, renferment une quantité de secrets et d'affaires dont on ne se doute pas nécessairement. Il y a vraiment un paquet d'histoires qui viennent avec les plaines d'Abraham, puis c'est juste à côté chez nous ici, là, c'est tout proche.
En fait, on les prend pour acquis, les plaines d'Abraham.
On les prend pour acquis.
On pense qu'elles sont comme elles sont depuis des décennies. Pas tant que ça. Les plaines d'Abraham, évidemment, c'est un des nombreux joyaux de Québec, lieu chargé d'histoire en raison de la bataille qui a fait basculer la Nouvelle-France dans l'Empire britannique. Ces lieux-là furent longtemps considérés comme un élément de la plus haute importance pour la défense de Québec. Parce qu'on est au point le plus haut à Québec, là. Quand on est sur les plaines, là, dans le coin de, je vous dirais, du Concorde, le point le plus haut de la ville de Québec, il est là. Après ça, ça descend tranquillement vers la vieille ville.
Alors, le top de Québec, c'est...
Ouais, le top de Québec, on pourrait
la
dire...
La cime, non, on peut pas dire la cime, en tout cas. Pas grave.
En tout cas,
le point le plus élevé.
C'est ça. Le sommet de Québec.
Ah, oh, c'est bon.
Le
ça.
Mont Everest de Québec.
Remarquez.
À peu près.
On manque pas d'oxygène trop au sommet des buttes à Neveu, je vous dirais.
Ça dépend. Moi, je suis capable si je fais du jogging.
Ouais, Paul, s'il monte en haut, il va être aussi brûlé que si
moi, les escaliers du Cap Blanc, j'évite ça. J'ai peur de manquer d'oxygène avant de me rendre en haut.
Au milieu?
Il y a trop d'altitude.
Alors donc, mais les plaines d'Abraham, à l'époque de la Nouvelle-France, étaient beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. En fait, là, le lieu qui subsiste aujourd'hui grâce à un legs du gouvernement canadien en 1908, c'était l'année du tricentenaire de Québec, a vu toutes sortes d'activités sur son sol. Et l'aspect qu'on connaît aujourd'hui des plaines d'Abraham, ça date seulement du début des années 50.
Ah ouais.
C'est quand même, ouais, c'est
1950.
Quand même, ouais, 1950. Ah alors, ouais. Un peu plus loin là. En fait, entre le legs et les plaines qu'on connaît aujourd'hui là, il s'est écoulé presque 50 ans.
OK.
Quand même. Alors, les premières mentions, les premières vocations des plaines, ben les plaines d'Abraham tirent leur nom d'Abraham Martin, qui est un des premiers à venir coloniser Québec, entre guillemets. Il est arrivé ici en 1620. Puis une vingtaine d'années plus tard, ses terrains s'étendent de la rivière Saint-Charles jusqu'au promontoire de Québec, c'est-à-dire au sommet du Cap-Diamant. Il est à cet endroit-là, là où sont localisées les plaines d'aujourd'hui. En fait, ses terrains englobaient pratiquement tout le quartier Saint-Jean-Baptiste, en plus des plaines actuelles. Sauf que quelques temps avant sa mort, lui est mort en 1664, les Ursulines vont prendre possession de ses terres. Puis jusqu'en 1759, là, c'est-à-dire la bataille des plaines d'Abraham, Québec s'est très, très peu développé à l'extérieur de ses murs. Donc, l'emplacement des plaines ne subit à peu près aucune modification en 100 ans. Et essentiellement, les plaines servaient à cette époque-là, l'époque de la Nouvelle-France, de laboratoire à ciel ouvert pour les spécialistes qui voulaient étudier la flore du territoire. Parce que la Nouvelle-France, c'était nouveau. Alors, on étudiait, c'est qu'est-ce qui pousse en Nouvelle-France, qu'est-ce qui pousse en Amérique. Et les plaines étaient foisonnantes. Le premier livre des plantes du Canada fait état de 80 espèces différentes. Puis la plupart d'entre elles sont observées sur les plaines. Alors, c'est quand même un haut lieu de la flore au Canada cette époque-là. Puis Michel Sarrazin, bien plus que la fameuse résidence qu'on connaît, là. Lui, c'était un médecin, mais il était aussi naturaliste. Il fera beaucoup pour répertorier le patrimoine botanique de la Nouvelle-France vers la fin du 17e siècle. Et ses terres à lui, Michel Sarrazin, étaient situées en partie sur les plaines. Puis en plus de ça, lui, il se servait de l'eau minérale recueillie sur les plaines qui était riche en fer pour soigner ses patients. Parce qu'il y avait toutes sortes de petites sources d'eau un peu partout sur les plaines. Puis il avait vu ça, lui, qu'ils avaient des propriétés pour guérir ses patients. Alors, il récoltait l'eau puis il donnait ça aux gens qu'il soignait. Il y a certains paysans qui font brouter leur bétail à cet endroit. Et on y a également fait la culture de céréales, mais de l'agriculture sur les plaines, il y en a pas eu beaucoup.
Il y a un auditeur qui nous écrit qu'il a déjà fait les foins, ces plaines d'Abraham, avec son grand-père.
Hey, ça, c'est malade.
En 49. J'ai fait les foins sur les plaines en 49 avec mon grand-père.
Voyez-vous, 49, là. Puis pourtant, là, les plaines, c'était un lieu public à cette époque-là. Ouais. Il y avait encore toutes sortes d'activités. On va y venir d'ailleurs. Puis dans les dernières années du régime français, là, il y a de plus en plus de terres qui sont concédées vers l'ouest. Alors, ce sont surtout des gens de conditions modestes qui vont s'installer au nord de la Grande Allée. Parce que la Grande Allée, là, on est sur les plaines, là, les vieilles plaines, là. La Grande Allée, quartier Saint-Jean-Baptiste, c'est les plaines.
Ah ouais.
La bataille des plaines d'Abraham, là, ça a eu lieu.
Elle se fait pas rien que devant la scène du Festival d'été.
Non, c'est ça. Au contraire, la scène du Festival d'été, là, on est à l'extrémité droite, là, de l'alignement des deux armées, là. Alors, c'est davantage dans le quartier Saint-Jean-Baptiste que la bataille se déroule, mais évidemment, en 1759, il n'y avait pas de maison là. C'était les plaines. Alors donc, justement, les gens qui s'installent là s'amènent à la création du quartier Saint-Jean-Baptiste. L'élite va s'installer davantage au sud, mais des considérations militaires vont limiter cette expansion parce que le siège et la prise de Québec par les Britanniques en 1759 changent la vocation des lieux à jamais. Ça devient un lieu historique, pas sur le coup, là, mais au fur et à mesure que les années vont passer, parce que c'est là que le Canada bascule dans l'Empire britannique. Mais surtout, là, les nouveaux maîtres, les Britanniques, ont conscience que les plaines forment la clé de la défense de la ville. Ils l'ont vu, là, c'est comme ça qu'ils ont réussi à en prendre possession. Alors, dès le début, les autorités s'affairent à acquérir les terrains vacants qui sont au sud. Au nord, ben, c'est pas mal trop tard parce que le quartier Saint-Jean-Baptiste est trop développé. Mais aussi, le nord est plus bas que le sud. Quand vous vous tenez sur la Grande Allée, là,
ouais.
Vous êtes sur la Grande Allée, mettons, là, pas loin du Concorde.
Mm-hmm.
Si vous regardez vers le nord, c'est-à-dire à votre gauche, en regardant vers Québec, là, à votre gauche,
ouais.
Ça descend plus vite que ça descend du côté sud. Là. Parce que les fameuses buttes à Neveu, là,
oui.
C'est à peu près dans le coin du Concorde. Alors, c'est un petit peu plus élevé dans ce coin-là. Donc, c'est plus... point de vue militaire, c'est un lieu qui est plus important. Alors, tranquillement, là, sur le terrain sud, sur les plaines actuelles, il y a plusieurs ouvrages militaires qui sont construits pour protéger les accès à la ville. Ces ouvrages-là vont laisser la place à la citadelle. La citadelle qu'on connaît aujourd'hui là est construite entre 1820 et 1832. On l'appelait la Gibraltar d'Amérique à cette époque-là. Puis aussi on a
la Gibraltar.
La Gibraltar d'Amérique.
À cause de la tour pour résidence personnes âgées, j'imagine.
Ouais, ouais, ben je pense pas que ça soit ça tout
non.
à fait.
Là. Ah non,
mais c'est parce que Gibraltar c'est une espèce de cap rocheux qui est sur le bord de la mer.
Ah ouais.
Et nous autres, ben c'est un cap rocheux qui est sur le bord du fleuve. Puis les fameuses tours Martello. On les a construites autour des années 1810. Elles sont érigées sur les plaines comme poste avancé de défense. Il y en avait quatre à l'époque qui formaient une barrière allant des deux extrémités là, du promontoire. Il y en a trois qui subsistent aujourd'hui. Les tours 1 et 2 se trouvent sur le territoire actuel des plaines. L'une est près de la falaise qui borde le Saint-Laurent. L'autre est à l'angle des rues Laurier et Taché, un peu à l'ouest du Concorde. La tour numéro 3, elle, était située près du Grand Théâtre. Elle a été détruite. Et la quatrième est près de l'intersection des rues Lavigueur et Philippe Dorval dans Saint-Jean-Baptiste. Elle est encore là, elle.
Ah oui, ben oui, dans le cap, là, carrément.
Elle est sur le bord du cap.
Ah oui, 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 ben oui.
Carrément. Alors, dans le fond, ça faisait une ligne de défense d'un bout à l'autre des plaines. Mais ces ouvrages-là n'ont jamais servi. Les Américains ont fait le siège de Québec en 1775, mais ils n'ont pas attaqué par les plaines, même si leurs troupes se sont installées dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Les Américains, à cette époque-là, ont tenté de passer par le quartier Petit-Champlain, mais ça n'a pas fonctionné. Puis il y a eu une autre guerre un peu plus tard, en 1812, mais il n'y a pas eu de combat dans le coin de Québec. Le Québec a été épargné à ce moment-là.
La guerre de 1812, c'est-tu la pub de Laura Socor qui passait à la TV? Tu sais, mon dieu, il y avait une pub de Laura Socor, mais c'était pas les chocolats. C'est Laura Socor, la combattante. Ça vous dit quelque chose?
Vaguement, ouais.
Il y avait une espèce de pub, mais je pense que ça, c'est une affaire qui est plus enseignée dans les cours d'histoire au Canada anglais. Nous, effectivement, à Québec, comme ça n'a pas vraiment eu d'impact, il n'y a pas eu d'affrontement. Là.
Non, au Québec, en 1812, il n'y a pas eu de conflit. Le conflit n'est pas venu au Québec. Ça s'est passé plus dans le Haut-Canada, là, l'Ontario maintenant.
Là, on dirait que depuis notre chicane sur le mot entamé, Vez, on dirait que je veux flasher mes connaissances. Laura Socor est une héroïne canadienne de la guerre anglo-américaine de 1812.
Bravo!
Aïe, merci.
Même si la vache ne donne pas de poutine, là-dessous une cloche qui fait ding ding. Elle a la commandée, ding, va bientôt devenir poutine, du bon poutine.
Laura Socor, qu'est-ce qu'elle fait donc chanter les petits cimards?
C'est les petits poutines, Laura Socor.
Ouais, c'est ça. Là, en 1812, on était moins dans le pudding, ouais, par exemple.
En tout cas, on les mangera plus de la même façon, les puddings, maintenant qu'on sait que c'est une héroïne.
Qui a marché 32 kilomètres lors de la guerre, machin, là, en tout cas.
1812.
Super hot.
Ben. Alors, parlons de l'avenir des plaines, parce qu'après 1812, il n'y en a plus de guerre avec les États-Unis. Les relations entre le Canada et les États-Unis se normalisent. Alors là, la défense de Québec ne se pose plus vraiment. Les troupes britanniques vont quitter d'ailleurs Québec en 1871. Et à partir de ce moment-là, la question de l'avenir des lieux se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec les plaines? Et la question va être réglée en 1908, plus de 100 ans plus tard, année du tricentenaire de Québec. Le gouvernement fédéral devient propriétaire des lieux et décide de préserver les plaines dans leur état actuel. Évidemment, l'importance historique de l'endroit joue un rôle important dans cette décision-là. Mais le projet va prendre du temps à aboutir. Parce qu'à l'époque, la partie est des plaines, là, celle où est érigée la scène du festival d'été, est occupée par différents bâtiments. À l'entrée là, qui est située entre, grosso modo, l'édifice H, le bunker, et la porte Saint-Louis, là, ben, y avait une aréna.
Ouais.
C'était le Quebec Skating Rink qui était là.
Ah bon? Là où jouaient les Bulldogs.
Exactement.
La coupe Stanley s'est gagnée là, je pense.
Ben, y en a une des deux, me semble, qui ont gagné à Québec, parce qu'ils ont gagné en 1912-1913. Ah, ouais, okay. Puis ils jouaient au Quebec Skating Rink, qui était juste là, quand vous rentrez sur les plaines, là, ben, les portes, il était là.
À l'entrée à droite.
C'est ça, à côté des les fortifications.
Des murs,
là, c'est ça. Il était, dans le fond, il était fiché entre les murs, puis le bunker, évidemment, qui n'existait pas à cette époque-là. Là. Mais il était là. À l'entrée, carrément.
Carrément, où est-ce qu'il y a carrément l'intersection entre la
ben, l'entrée
c'est,
des plaines,
c'est comme la grande allée, puis
quand tu rentres à l'entrée des plaines, qui est à côté du Parlement, où il y a le monument du souvenir.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ben,
tu rentres là, puis c'était tout de suite à droite, collé sur la.
Il y a de la place pour un aréna, là.
Ben, il y avait de la place.
Ouais, mais là, c'était pas le Colisée, là. Il y avait pas 15 000 places là-dedans.
Non, c'est
là.
Ça.
OK, ouais.
C'était plus une patinoire couverte qu'un amphithéâtre.
je comprends.
Alors lui, il est là. Il sera victime d'un incendie érasé au début des années 30. Parce que selon les plans là, de l'architecte qui était mandaté pour faire le plan des lieux, lui, il avait dit l'entrée des plaines va être là. Mais là, il y avait un aréna. Mais quand il a été détruit, ben là, ils ont fait l'entrée des plaines là. Sauf que, voisin de l'aréna, il y avait également la cartoucherie de Québec, qui est construite exactement à l'endroit où s'agglutinent les spectateurs du festival. Dans le fond, tu as la scène du festival d'été, là, puis tu as une espèce de parterre plat là, avant la petite colline qui monte. Mais la cartoucherie de Québec, elle était là.
Cartoucherie, ça, c'était quoi?
C'était des munitions. Okay, c'est ça. Ouais. Des balles de fusil, dans le fond, c'est ça qu'on faisait là. Et puis, un peu plus loin, près de la tour Martello numéro 1, c'est l'usine du fabricant de carabines Ross qui est installée là. Alors, il y avait des activités industrielles qui étaient sur les plaines. Les deux vont disparaître au tournant des années 20 et 30. Et un peu plus loin, c'est le club de golf Royal Québec qui a installé son parcours. Il était sur les plaines, eux autres. Il va y être jusqu'en 1915, année où finalement ils vont déménager dans le coin de Bois-Châtel. Alors,
d'ailleurs, au fait du 400e, il y a 13 ans, ils avaient recréé un petit parcours de notre roue sur les plaines. J'avais été invité à aller jouer, puis ils avaient loué des bâtons d'époque. Qui avait fait venir d'Écosse à gros prix parce que ça coûtait des affaires. Parce que c'était des pièces de collection quasiment.
Mais tu avais d'autres jouer avec?
Oui. Il y avait des assurances qui
ont coûté. Ça s'appelle Casse-le pas,
ouais,
c'est
ça. Oui, c'est ça. Puis il y avait fait faire des balles de golf qui ressemblaient à ce qu'étaient les balles de golf à l'époque.
Tu les avais-tu essayé?
Oui, mais ils nous en donnaient une chacun, puis on jouait avec cette balle-là.
C'est bien
hot, ça. Oh oui, c'était vraiment trippant, puis ils nous demandaient de nous costumer un peu pour essayer de recréer les costumes d'époque. Puis,
t'avais-tu porté le kilt?
Non, c'était pas le kilt. Je suis pas sûr qu'ils se portaient beaucoup sur les terrains de golf à Québec en 1908.
C'est sûr.
Ben, c'était un petit peu fret pour avoir le kilt. Alors, eux autres, en 1915, ils s'en vont, puis pendant une dizaine d'années, là, à partir du moment où l'aréna, la cartoucherie, puis le fabricant d'usine de fusils, les installations sont démantelées, ben là, les plaines sont vacantes. Là, ça commence à ressembler à ce que c'était, à ce que c'est aujourd'hui. Et la Ville de Québec va en profiter à ce moment-là pour construire son réservoir d'eau potable à proximité de ce qui est aujourd'hui le jardin Jeanne d'Arc, près du Concorde. Il est entré en fonction en 1933. Il peut contenir 136 millions de litres d'eau. Il dessert les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et une partie de Limoilou. Il est situé à 2 mètres sous terre. Et à cette époque-là, là, on est à l'époque de la grande crise où le taux de chômage est au plafond, là. Il a été creusé entièrement à la pelle pour donner le plus de travail possible aux chômeurs qui étaient très nombreux. Alors, tout ça, là, ça a été creusé à la pelle. Il n'est pas hyper profond, il est relativement large, puis il est situé à l'endroit de Québec, là, quand tu parlais des buts à Neveu, là, il est en plein à l'endroit où c'est le plus élevé à Québec.
Hey, mais à 2 mètres sous le sol, là. C'est rien. Là, non, t'as l'impression que c'est bien plus creux que ça, mais à 2 mètres, tu sais, c'est en dessous de tes pieds direct. Là.
Ben, quand on se promène, là, on le voit là où il est situé, parce qu'il y a des espèces de plaques d'égout fermées, là, évidemment. Il n'y a pas d'eau de pluie qui peut rentrer là. C'est de l'eau qui vient de la Saint-Charles, du lac Saint-Charles, qui est pompée là, puis qui descend par gravité dans les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur et Limoilou.
C'est ça. Donc, c'est quand même la rivière Saint-Charles.
C'est monté. C'est pompé en haut. Puis dans le fond, c'est une réserve qui est là quand on en a besoin. C'est pour ça qu'on a fait ça à ce moment-là. Arrive la Deuxième Guerre mondiale et là, la partie Est des plaines, là, il va se passer pas mal de choses là. La partie qui est située derrière le manège militaire va retrouver une vocation militaire, justement, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Brièvement, il y a des prisonniers allemands qui ont été détenus là. On a fait un camp de prisonniers, mais là, rapidement, on s'est aperçu qu'ils étaient pas mal trop près de la ville, puis ils vont être transférés ailleurs, à Beauport notamment, mais surtout en Ontario. Là, les prisonniers allemands, au fur et à mesure que la guerre avance, puis qu'on en fait de plus en plus, c'est en Ontario qu'ils vont être détenus, les prisonniers allemands. Par la suite, ce sont des réfugiés, surtout des Juifs allemands, qui vont prendre la place là en arrière du manège militaire. Et enfin, des baraques seront construites pour abriter les soldats en attente d'un bateau pour l'Europe. Alors, les soldats étaient hébergés là, puis quand leur bateau était prêt, ben ils descendaient, prenaient le bateau, puis ils traversaient l'Atlantique. Puis ce camp-là va demeurer sur place après la guerre, puis il va être squatté par des résidents de Québec. Ce sont des gens pauvres, sans logis, qui s'y installent. Québec vit une grave pénurie de logements à cette époque, et il y a plusieurs familles qui sont à la rue. Et on va appeler ça le faubourg de la misère. C'est une solution qui était temporaire, mise sur pied par les autorités municipales, qui va se prolonger jusqu'au début des années 50.
Puis, un genre de squat, mais finalement public.
Ben, c'est ça.
C'est plein d'Abraham.
C'est pas clair de la façon que ça a commencé. Ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, mais tabarouette, on n'a pas de place à rester.
On va aller là.
Les baraques là, on va aller là. Puis la ville s'est dit, ah, gardons la bonne idée, toi, on va les installer là. Mais là, un moment donné, on s'est dit, ben là, c'est pas très, très salubre comme milieu, là. Alors, tranquillement, là, on a fait des logements sociaux, puis on a relogé ces gens-là. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, c'est-à-dire début des années 50, que les plaines prennent le visage qu'elles ont aujourd'hui. Alors, entre 1908, le moment où on a décidé que ça devenait un lieu public, et 1950-quelque, où c'est vraiment devenu ça, ben, il s'est passé presque 50 ans.
Hey François, je le savais en plus que j'allais apprendre des affaires dans cette chronique-là, mais je souscris à 100% au texto de Dominique qui dit « C'est pas la première fois que je vous le mentionne, mais quelle formidable chronique. C'est toujours très, très intéressant de se parler, François. Merci beaucoup. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine.
Oui, semaine prochaine, si Dieu le veut.
Et je réitère que si jamais vous avez des idées de sujets pour François, vous nous les envoyez par courriel, par texto, au 25226, sinon sur le site du 93, vous êtes capable de trouver mon courriel. Moi, je relais tout ça à François, que ce soit pour la grande série, bien plus que, parce que vous vous demandez le nom de tel quartier, le nom de tel bâtisse, le nom de telle rue, pourquoi ça s'appelle de même. Même des fois, des quartiers ont des histoires, tu sais.
Les vieilles maisons, on va en faire un autre. On en a fait un il y a une couple de semaines sur les vieilles maisons.
Le spécial des vieilles maisons.
Ouais, on va en faire un autre si vous avez des suggestions.
D'ailleurs, je t'ai envoyé les informations, ma chum 4.
La maison Plante, la rue Plante.
Ouais, la maison au milieu de la rue à Lévis. Ça, c'est capoté. Écoute, on a quand même mis la main sur des documents qui date d'autour de 1750, là. Tu sais, c'est...
Nouvelle-France.
Ça commence à être pas mal les plus vieux documents qu'il peut y avoir sur cette maison-là, là. En tout cas, merci, François.
Ça me fait plaisir.
Le Sieur de Terrien, mesdames, messieurs. 8h58 minutes, on fait une courte pause. Et au retour, là, si vous avez des questions concernant les semis, parce que là, on est là-dedans.
Oui.
Évidemment, par-dessus la tête. Moi, chez nous, mon garage est devenu une serre depuis 2 semaines, à peu près, là. Qu'est-ce que je te dise? Même, j'ai trouvé hier dans le frigo, des semis dans le frigo.
Ça me surprend pas. Les vidanges dans le garage, les vidanges dans le congélateur, les semis dans le frigo.
Il y a une logique.
Oui, c'est sûr. Oui.
Il y a un fil conducteur. Mais il y a des semis dans une guenille mouillée dans mon frigo. Je m'ablonde de tenter une explication hier, mais j'ai pas tout écouté. Mais donc, on parle avec
ça veut pas dire que t'aurais pas tout compris. C'est juste que t'as pas écouté.
Non, parce que ma blonde, elle trippe vraiment, puis elle aime ça, puis elle est assez bonne. Elle a vraiment le pouce vert. Puis là, elle me disait, c'est parce que je simule un hiver pour qu'il développe une couche de... insérer un terme technique ici. Mais c'est pour qu'il y ait une petite glue là, qui se développe autour de la graine, parce que c'est une graine...
Pour la protéger. Elle va donc s'auto-protéger elle-même.
En tout cas, c'est du romarin.
Ah, OK.
En tout cas, c'est du romarin. C'est tout ce que je peux dire.
Mais, bref, on va parler de semis avec une sommité.
Avec une sommité? La reine... La reine de l'horticulture qui est avec nous, Marthe Laverdière, après la pause. Envoyez-nous vos textos, vos questions par texto au 25226. Sinon, ben moi, j'en ai plein des questions pour Marthe Laverdière. Mais si vous en avez, vous nous les envoyez et je les poserai à Marthe dans 4 minutes.
Que Québec se lève.